France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Martine Moni, Stéphane Poitvin, Antoine Giraud et Olivier Dehay. Voici la première émission d'une série que nous allons consacrer au chef d'orchestre Sir John Barbirolli, né il y a 120 ans, le 2 décembre 1899. Tandis que nous déplorons aujourd'hui la disparition d'un autre grand chef d'orchestre, c'est Maurice Janssens, décédé hier à l'âge de 76 ans. Maurice Janssens, à qui plusieurs hommages ont été rendus ce matin sur France Musique. Lionel Esparza et Aurélie Moreau y reviendront tout à l'heure dans Relax et dans le Van Beethoven. Quant à moi, je vous invite à réécouter sur notre site la série de 5 émissions que j'avais consacrée à Maurice Janssens en janvier 2018, de Riga à Saint-Pétersbourg, d'Amsterdam à Munich, en passant par Oslo ou encore Pittsburgh, des villes qu'il avait marquées de son grand talent de chef d'orchestre. Mais ces arabesques de la semaine vont donc nous permettre de faire revivre Sir John Barbirolli, décédé en 1970, après une carrière que nous évoquerons chronologiquement, et ça commence à Londres en 1929 avec le violoniste Misha Elman.
Thank you.
l'extraordinaire qualité sonore de cet enregistrement qui date du 20 décembre 1929, réalisé au Queen's Hall de Londres. L'orchestre symphonique de Londres était dirigé par le jeune John Barbirolli pour accompagner le violon de Misha Elman. John Barbirolli, né à Londres le 2 décembre 1899, je le disais, sous le nom de Giovanni Battista Barbirolli. Avec un tel nom, difficile de cacher ses origines italiennes du côté de son père, qui était un violoniste vénitien, mais qui ne doit pas faire oublier les racines françaises du côté de sa mère, Louise Marie Ribérol. Mais John Barbirolli était avant tout un londonien et plus exactement un cockney qui, comme son père, étudie le violon dès l'âge de 4 ans pour se retourner ensuite vers le violoncelle, dont il sera un grand interprète, en tout cas un grand partenaire de musique de chambre et également un violoncelliste du rang dans plusieurs orchestres anglais. Formation musicale assez classique, Trinity College, Royal Academy of Music, et puis il joue dans des orchestres sous la direction de Thomas Beecham ou encore Edward Elgar, qui lui permet d'avoir une idée de ce qu'est la direction d'orchestre. Mais c'est en tant que soldat de la Première Guerre mondiale que Barbirolli aura l'occasion pour la première fois de diriger un orchestre, et dans les années 20, il va fonder son propre orchestre de chambre. C'est alors que sa carrière de chef va décoller en Angleterre, et puis dans toute la Grande-Bretagne, puisqu'il y aura également un poste à Glasgow. Donc nous évoquons de façon chronologique cette discographie de John Barbirolli avec un chef d'orchestre très lyrique, attaché notamment à Covent Garden et attaché à la musique de Richard Wagner, comme en témoigne cette archive de mai 1931, où il accompagne certains des plus grandes voix wagnériennes de l'époque, comme Lauritz Melchior ou Elisabeth Schumann, dans cet extrait des Maîtres chanteurs du Nuremberg.
Thank you.
Le quintet du troisième acte des maîtres chanteurs de Nuremberg de Richard Wagner avec Friedrich Schorr, Lauritz Melchior, Elisabeth Schumann, Gladys Parr, Ben Williams. L'orchestre symphonique de Londres était dirigé par John Barbirolli en mai 1931 dans cette archive qui témoigne du goût de John Barbirolli, du même de la passion pour l'opéra. Une carrière lyrique s'annonçait pour lui, lui qui avait en charge la British National Opera Company, BNOC, compagnie d'opéra nationale britannique, qui va proposer des tournées d'opéra dans toute l'Angleterre, même au-delà, avec un répertoire très important qui va permettre à John Barbirolli de se familiariser avec ce monde de l'opéra. Mais lui, qui est violoncelliste du rang, hésite encore avec le monde purement symphonique, purement instrumental. En cette même année 1931, il a 32 ans, il dirige de nouveau l'Orchestre symphonique de Londres pour accompagner le piano d'Arthur Rubinstein dans ce concerto opus 11 de Frédéric Chopin. Malgré quelques craquements, la grâce absolue d'Arthur Rubinstein dans cette romance centrale de l'opus 11, concerto en mi mineur de Frédéric Chopin, en 1931 avec l'Orchestre Symphonique de Londres dirigé par John Barbirolli.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Giovanni Battista Barbirolli, qui va rencontrer un autre artiste d'origine italienne et même pleinement italien, c'est le ténor Beniamino Gigli en 1933. À cette époque, Barbirolli hésite encore entre cette carrière purement symphonique et la carrière lyrique. Il accepte deux postes, le premier à Glasgow avec le Scottish Orchestra et l'autre avec l'Orchestre Symphonique de Leeds, ce qui n'empêche pas de jouer, de faire jouer de l'opéra, comme en témoigne cet enregistrement avec un orchestre non identifié. En tout cas, c'est bien John Barbirolli qui dirige cet extrait de l'Élixir d'amour de Gaetano Donizetti, une larme célébrissime chantée par Nemorino alias Beniamino Gigli.
Si può morir,
Beniamino Gigli en 1933, sous la direction de John Barbirolli, avec cet extrait de l'élixir d'amour de Gaetano Donizetti. Barbirolli, qui à 17-18 ans était soldat pendant la Première Guerre mondiale en 1916-1917, et il se souvient de sa garnison sur l'île de Grain au sud de l'Angleterre. J'étais là-bas en garnison dans un endroit horrible, mais qui composait la première ligne de défense contre l'invasion. Et dans notre bataillon des Suffolks, nous avions un certain nombre de musiciens professionnels. Il nous vint donc l'idée de former un orchestre et nous jouions lors de nos temps libres dans le foyer central. Je jouais en tant que violoncelliste principal et nous étions sous la direction du chef de musique, un certain lieutenant Bonham. Les autres savaient que je brûlais d'envie de prendre la baguette, et alors qu'un jour Bonham attrapa la grippe, ils pensèrent que Old Barbie, c'était mon surnom, devait tenter sa chance. La situation était plutôt romantique. J'étais en train de nettoyer le plancher dans le mess des officiers quand ils vinrent me trouver pour me faire la proposition. Notre programme fut composé de l'ouverture de la cavalerie légère et de la petite suite de concerts de Coleridge Taylor, et je dois avouer que je ne me souviens pas des autres morceaux. Fin de citation. Souvenir savoureux de ce chef d'orchestre que nous retrouvons à Londres le 2 mai 1934 dans un studio d'Abbey Road avec l'Orchestre Symphonique de Londres, accompagnant l'un des plus grands pianistes du XXe siècle, Arthur Schnabel, dans la musique de Mozart. Thank you. Le temps s'était suspendu ce 2 mai 1934 avec le pianiste Arthur Schnabel, interprète du 27e concerto de Mozart, le Köchel 595 en si bémol majeur dont nous écoutions le Larghetto central avec l'Orchestre symphonique de Londres dirigé par John Barbirolli. Barbirolli qui alterne encore à cette époque entre programme symphonique et programme d'opéra. D'ailleurs en 1932, il épouse l'une des chanteuses de la British National Opera Company, Marjorie Parry, un mariage d'ailleurs qui sera terminé 4 ans plus tard, mais en tout cas, encore l'hésitation entre le lyrique et le symphonique. Nous avons peu de traces phonographiques de cette carrière lyrique de John Barbirolli. En revanche, beaucoup d'enregistrements de concertos avec certains des plus grands artistes de l'époque, comme le violoniste Yasha Heifetz, ici interprète du concerto opus 82 de Glazounov. Je sais qu'il a ses détracteurs, mais il faut quand même reconnaître que ce musicien était un extraterrestre. Yascha Heifetz, violoniste, interprète en mars 1934 de ce concerto de Glazounov, l'opus 82, avec le final de cette partition jouée par l'orchestre philharmonique de Londres, dirigé par John Barbirolli.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Alors, outre la qualité sonore de ces enregistrements, ils sont également un témoignage de cette génération, de cette jeune génération. Ces interprètes sont nés à la toute fin du 19e, début du 20e siècle. Ils ont donc une trentaine d'années. C'est Yascha Heifetz, John Barbirolli et autre Grégor Piatigorsky, le violoncelliste, qui lui aussi va rejoindre les studios d'Abbey Road, où John Barbirolli a presque planté sa tente en cette année 1934, tant il y a d'enregistrements, lui dirigeant soit l'orchestre symphonique, soit l'orchestre philharmonique de Londres. Grégor Piatigorsky, né en 1903 dans la Russie de Nicolas II, violoncelle solo de l'orchestre philharmonique de Berlin à la fin des années 20, et puis soliste international, lui qui a joué avec certains des interprètes qu'on vient d'entendre, comme Heifetz, Schnabel, mais aussi Rachmaninoff, Horowitz, Milstein. Grégor Piatigorsky, le voici, jouant le final du concerto opus 129 en la mineur de Robert Schumann. Ce n'est pas tout à fait du violoncelle que l'entendait là, petite erreur. En tout cas, Grégor Piatigorsky, je vous l'annonçais, nous allons l'entendre, ce violoncelliste qui était trentenaire en 1934, je le disais, lorsqu'il enregistrait ce concerto de Schumann, que voici, que voilà. Thank you. Gregor Piatigorsky, violoncelliste avec l'Orchestre Philharmonique de Londres, dirigé par John Barbirolli en juin 1934, dans ce concerto en La mineur, l'opus 129 de Robert Schumann, dont nous écoutions le final. Et voici de l'année suivante, juin 1935, toujours à Londres, avec un orchestre cette fois-ci non identifié, mais en tout cas on connaît bien l'identité du pianiste, puisque à l'égal d'Arthur Schnabel, c'est une légende du piano. Il s'agit d'Edwin Fischer, là encore un concerto de Mozart abordé de façon différente par Fischer. C'est le Köchel 482, 22e concerto de Mozart en mi bémol majeur, dont voici le final, Allegro vivace assai. Thank you. Le pianiste suisse Edwin Fischer avait presque 50 ans en cette année 1935 lorsqu'il enregistrait ainsi le 22e concerto pour piano de Mozart, le Köchel 482 en mi bémol majeur. C'était le final par un orchestre non identifié mais dirigé par John Barbirolli.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Alors résumons-nous, Misha Elman, Lauritz Melchior, Elisabeth Schumann, Arthur Rubinstein, Beniamino Gigli, Arthur Schnabel, Yashar Ifetz, Gregor Piatigorsky et à l'instant Edwin Fischer. C'est vraiment le bureau des légendes que ces artistes accompagnés par John Barbirolli dans les années 30. Et ce n'est pas fini car voici le violoniste viennois Fritz Kreisler. Kreisler qui vivait à Berlin depuis 1924 mais qui s'était exilé en France à partir de 1933 du fait de ses origines juives. Il est à Londres en juin 36, il a 61 ans, Fritz Kreisler, et il est face au concerto de Beethoven, l'opus 61, dont voici le mouvement final, le rondo final avec l'orchestre philharmonique de Londres, dirigé par notre héros de la semaine.
Thank you.
1936, John Barbirolli dirigeait l'Orchestre Philharmonique de Londres pour accompagner le violon de Fritz Kreisler dans ce concerto pour violon de Beethoven, l'opus 61 en ré majeur, dont nous écoutions le rondo final. Avec la plupart du temps, les violonistes jouent des cadences signées Fritz Kreisler. Et bien ça tombe bien, c'était Fritz Kreisler qui jouait lui-même ses propres cadences dans cet enregistrement. 1936, c'est une année essentielle pour la carrière de Barbirolli. Arturo Toscanini quitte alors l'Orchestre Philharmonique de New York pour un poste plus lucratif à la tête de l'orchestre de la radio NBC. Il faut lui trouver un ou même plusieurs remplaçants et on fait appel notamment à John Barbirolli qui le 5 novembre 1936 donne son premier concert à New York. Barbirolli en Amérique, ce sera le sujet de l'émission de demain. Et puis j'ai à plusieurs reprises parlé d'orchestres non identifiés pour certains de ces enregistrements. Un auditeur que je salue me signale qu'il s'agirait de l'orchestre de chambre de Barbirolli puisque j'avais dit qu'il avait fondé un orchestre de chambre. Et bien c'est peut-être celui-là qui accompagne le pianiste Alfred Cortot dans ce concerto de Chopin.
Thank you.
1936, sous la direction de John Barbirolli, Alfred Cortot a interprété le concerto opus 21 de Chopin, Allegro vivace. C'était le final de cette partition.
À réécouter sur francemusique.fr.